Première partie. 1. De Thouars et de sa venue à Gondolin. Mon père devait déclarer plus d'une fois que la chute de Gondolin avait été le premier des contes du premier âge à voir le jour, et rien ne permet de mettre en doute son dire. Dans une lettre de 1964, il affirme que la conception de ce conte fut tirée de son esprit pendant une permission pour maladie en 1917. Et à d'autres moments, il donne 1916 ou 1916-1917 comme date. Dans une lettre de 1964, il précise « J'ai commencé à écrire le Silmarillion dans des baraquements remplis du son des gramophones. » Et de fait, quelques vers où figurent les sept noms de Gondolin sont griffonnés sur le dos d'une circulaire précisant la chaîne des responsabilités à l'échelon du bataillon. Le manuscrit original existe encore, remplissant deux petits cahiers d'écoliers. Il est écrit hâtivement au crayon et surchargé de notations à l'encre et de ratures multiples. Ma mère avait recopié au net ce premier jet, visiblement en 1917, mais cette bonne copie devait à son tour être abondamment corrigée et retravaillée à une époque que je ne puis clairement déterminer, mais qui doit se situer vers 1919-1920, lorsque mon père était à Oxford, où il participait à la rédaction du dictionnaire alors inachevé. Au printemps 1920, il fut invité à donner une conférence au club des essais de son collège, Exeter, et il leur lut La chute de Gondolin. Les notes de ce qu'il comptait dire en guise d'introduction subsistent à ce jour. Il s'y excuse de ne pas être en mesure de leur livrer un travail critique et poursuit « Aussi me faut-il lire quelque chose de déjà écrit et en désespoir de cause, je me suis rabattu sur ce conte. Il n'a bien entendu jamais été étalé au grand jour. Un cycle complet d'événements survenus dans une elfinesse de mon cru s'est développé dans mon esprit, s'y est construit, devrais-je dire, depuis un certain temps. Certains épisodes ont été griffonnés sur papier. Ce conte n'est pas le meilleur d'entre eux, mais il est le seul revu et corrigé à ce jour, et pour insuffisante qu'ait été cette révision, le seul que je me hasarderai à lire à haute voix. » Le récit de Thouars et des exilés de Gondolin, comme s'intitulait la chute de Gondolin dans le manuscrit original, devait dormir des années durant, bien que mon père ait rédigé à un moment donné, sans doute entre 1926 et 1930, une version abrégée du conte destinée à prendre place dans le Silmarillion, un titre qui, incidemment, apparaît pour la première fois dans sa lettre à l'Observeur du 20 février 1938. Et cette version a été remaniée par la suite conformément aux transformations apportées aux autres parties du livre. Bien des années plus tard, mon père se remit à travailler sur une version entièrement refaçonnée de conception toute nouvelle, intitulée « De Thouars et de la chute de Gondolin ». Il semble très probable que celle-ci date de 1951, lorsque Le Seigneur des Anneaux était achevé, mais que sa publication paraissait compromise. Profondément modifiée quant au style et à la portée, mais conservant néanmoins l'essentiel du conte écrit dans sa jeunesse, « De Thouars et de la chute de Gondolin » devait donner dans le menu toute la légende qui forme le chapitre 23 du Silmarillion dans sa version publiée. Mais malheureusement, l'auteur n'alla pas plus loin que l'arrivée de Thouars et de Voronwë à la dernière porte et la vision de Gondolin dans les lointains, au-delà de la plaine de Toumladen. Sur les raisons qui l'incitèrent à abandonner, nous ne savons rien. C'est le texte donné ici. Pour éviter toute confusion, j'ai modifié son titre, De Thouars et de sa venue à Gondolin, car il n'est nulle part question de la chute de la ville. Comme toujours en ce qui concerne les écrits de mon père, il y a des variantes, et pour un court passage, le trajet jusqu'au Sirion et la traversée du fleuve par Thouars et Voronwë, plusieurs versions entre lesquelles il a fallu choisir. Le texte a donc exigé un léger travail rédactionnel. Reste donc ce fait remarquable que le seul récit complet qu'ait jamais écrit mon père, relatant le séjour de Thouars à Gondolin, son mariage avec Idril Celebrimdal, la naissance des Arendil, la trahison de Maeglin, le sac de la ville et la fuite des rescapés, un récit majeur dans sa conception du premier âge, fut ce conte écrit dans sa jeunesse. Toutefois, il ne fait point de doute que ce récit, fort remarquable, ne se prêtait pas à l'inclusion dans le présent recueil. écrit dans le style archaïsant à l'extrême que mon père utilisait à l'époque, il incarne nécessairement des conceptions incompatibles avec le monde du Seigneur des Anneaux et du Silmarillion dans la version publiée. Ce récit mérite de figurer aux côtés des autres travaux appartenant à cette première phase de la mythologie, le Livre des Contes Perdus, œuvre en soi très riche et du plus haut intérêt pour qui s'interroge sur les origines de la Terre du Milieu, mais qui ne saurait être publiée sans une longue et savante étude. 2. La geste des enfants de Húrin. À certains égards, la légende de Túrin Turambar est dans son déroulement le plus embrouillé et le plus complexe des motifs narratifs qui s'entrelacent dans l'histoire du Premier Âge. Comme le récit de Tuor et de la chute de Gondolin, la légende remonte aux origines et fut développée dans un ancien récit en prose, un des contes perdus, et dans un long poème inachevé en vers allitératif. Mais alors que mon père ne devait jamais poursuivre très loin la version longue, plus tardive, du Tuor, il poussa beaucoup plus avant et mena presque à terme la version longue, tardive également, du Túrin. Elle a pour nom Narnihin Húrin. C'est le récit donné dans le présent ouvrage. On relève toutefois des différences considérables dans le degré d'achèvement des différentes parties au cours de ce long récit. La section finale, depuis le retour de Túrin au Dor Lomine jusqu'à la mort de Túrin, a exigé quelques remaniements éditoriaux purement accessoires. Alors que la mise au point de la première section, jusqu'à la fin du séjour de Túrin au Doriath, a demandé un important travail de révision, de sélection et, en certains endroits, de condensation, le texte original étant à l'état de fragments décousus. Mais plus complexe encore fut le problème rédactionnel que devait présenter la partie centrale du récit. Túrin chez les hors-la-loi, Mime le petit nain, les terres de Dor Cuarthol, la mort de Beleg des mains de Túrin et la vie de Túrin à Nargothrond. Le Narn s'offre ici sous sa forme la moins achevée, et il est même réduit par endroits à de simples indications sur les possibles développements de l'histoire. Mon père était encore en plein travail d'élaboration lorsqu'il décida d'abandonner le récit, et la version écourtée du Silmarillion était, à l'époque, censée attendre l'achèvement du Narn. Aussi, lorsque je me mis à travailler sur le texte du Silmarillion, en vue de sa publication, il me fallut nécessairement recourir à ces matériaux mêmes qui formaient cette section de la geste de Túrin, matériaux d'une complexité véritablement extraordinaire dans leur diversité et leur imbrication. Pour la première partie de cette section centrale, qui va jusqu'au début du séjour de Túrin dans la demeure de Mime sur l'Amonrud, je suis parvenu à construire un récit qui se déroule à la même échelle que les autres parties du Narn, et ceci en recourant aux matériaux existants. Mais à partir de là, et jusqu'à ce que Túrin vienne aux fontaines de Livrin après la chute de Nargothrond, j'ai jugé la poursuite de cette démarche peu profitable. Les lacunes du Narn se faisaient trop importantes et elles n'auraient pu être comblées qu'en puisant dans le texte publié du Silmarillion. Mais dans un appendice, j'ai cité des fragments isolés de cette partie du récit telle que mon père l'envisageait dans sa version longue. Dans la troisième section du Narn, à partir du retour de Túrin au Dor Lomine, la comparaison avec le Silmarillion livre de multiples et étroites correspondances et jusqu'à des spécificités de formulation. Et dans la première section figuraient deux longs passages que j'ai omis du présent texte, car ils constituaient de proches variantes de passages parus ailleurs et ils sont inclus dans la version publiée du Silmarillion. Ces chevauchements et recoupements entre une œuvre et une autre s'expliquent de diverses manières et selon divers points de vue. Mon père se plaisait à reprendre un récit et à lui donner une autre dimension, mais certaines parties n'exigeaient pas de traitement plus poussé en vue de leur insertion dans une version plus développée, et point n'était besoin de les reformuler. Et de nouveau, lorsque tout était fluide et que l'organisation définitive des divers récits était encore loin, le même passage pouvait fort bien se voir transféré à titre d'essai d'une version à l'autre. Mais on peut aussi chercher l'explication à un autre niveau. Les légendes telles celles de Túrin Turambar avaient reçu une forme poétique longtemps auparavant, en l'occurrence dans le Narnihin Húrin du poète d'Iravel. Et des phrases ou des passages entiers en provenant et singulièrement ceux où l'intensité rhétorique est à son comble, comme les paroles qu'adresse Turin à son épée au moment de mourir, ont été préservés inchangés par ceux qui, par la suite, devaient offrir des versions abrégées de l'histoire des jours anciens, puisque c'est ainsi que le Silmarillion fut conçu.